Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage, tous les jours, deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
À 17h, donc, je vous emmène dans un tout petit pays, mais aux grandes émotions. C'est un peu les montagnes russes, ce pays, puisqu'il passe de l'altitude zéro au bord de la mer, et la mer en mode plage détente, hein, on est sous l'équateur, à une altitude de plus de 6200 mètres dans la cordillère des Andes, avec des volcans actifs. Là, c'est grosse doudoune. Et puis de l'autre côté, on redescend par des gorges et des cascades vertigineuses jusque dans la forêt amazonienne. Et là, c'est encore un autre monde. Tout ça sur quelques centaines de kilomètres. C'est un pays incroyable. C'est l'Équateur. Et puis, juste avant, une région culte dont le nom sonne doux jusqu'aux quatre coins de notre planète grâce à ses breuvages. Mais c'est vrai que c'est une terre qu'en dehors de sa gastronomie, on ne connaît pas forcément très très bien. C'est la Bourgogne et nous aurons tout à l'heure pour la découvrir un guide de choix bourguignon au grand cœur, grand cœur, puisqu'il ne quitterait sa Bourgogne pour rien au monde, Guy Carlier. Et puis bien sûr, mes camarades de grands voyageurs, je ne serais rien sans eux. Je serais une âme en peine qui erre sur la terre. Bonjour Nathalie Hélal.
Bonjour à tous.
Nathalie Hélal, l'auteur, grande voyageuse. Un Belge bourguignon, c'est
oui.
Ouais, oui, c'est ça.
Bah bien sûr, oui, ça existe.
Ça existe.
Enfin, en tout cas, il y en a un ici.
Voilà. Donc, il est né en Belgique, il habite beaucoup en Bourgogne, et il est chroniqueur gastronomique. C'est Olivier Pouls. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour à vous.
Ah, on vous entend pas. Vous êtes comme lointain. Comme, je ne sais pas.
Bonjour à vous.
Ça y est, voilà.
Je suis de retour.
Jean-Bernard, la Bourgogne, on fait un petit topo.
Oui, alors région, grande région, située en centre-est, voisin de la vôtre, mon cher Philippe, voisin de la Franche-Comté,
ouais.
Quand même.
Souvent, on ne s'entend pas souvent très bien,
ouais,
les Comtois et les Bourguignons.
C'est pas le même univers.
Monde, on en reparlera.
Au sud, il y a la région Rhône-Alpes et au nord, la région Île-de-France. Il y a quatre départements qui composent cette région. Ouais. La Nièvre, pas très connue, l'Yonne, juste au sud du bassin parisien, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or avec la grande ville de Dijon, évidemment. Alors, ce qui fait la spécificité de la Bourgogne, c'est un carrefour climatique, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses au niveau culinaire et viticole. Il y a à la fois des influences de l'océan et des influences un
de
petit peu
l'océan,
oui,
en
de océanique.
Et les jours de grand vent, alors.
Les jours de grand vent, ça vient de l'ouest. Et en même temps, il y a des petites influences méridionales par le sud. Donc, c'est vraiment une région carrefour qui lui donne aussi tout son charme. Pas beaucoup de relief, il n'y a pas de grosses montagnes en Bourgogne, à l'exception un petit peu du massif du Morvan avec des sommets à 900 mètres à peu près.
D'accord, voilà. Merci Jean-Bernard. Nathalie,
oui.
Il y a des grands hommes et des femmes célèbres dans cette région.
Oui, parce que c'est une terre qui a vu naître des monuments, au sens propre comme au sens figuré. Alors je vais commencer par un très célèbre homme qui a popularisé et puis laissé son nom aussi à un autre célèbre apéritif, un mélange de vin blanc et de crème de cassis.
Ah oui.
Un homme politique, un prêtre, le chanoine Félix Kir, qui est né en janvier 1876 en Côte d'Or. Il a été député et puis maire de Dijon durant 22 ans, doyen de l'Assemblée nationale jusqu'à sa mort. Et cet homme prévoyant ne se déplaçait jamais sans un cabas contenant du vin blanc et de la liqueur de cassis.
Même à l'Assemblée ?
Surtout à l'Assemblée.
Ah bon ?
Alors figurez-vous quand même qu'il a créé un lac.
Mais c'est pour ça qu'il est resté célèbre ? C'est à cause de ce
pas
détail-là ?
Pas à cause de l'Assemblée, non, parce qu'il a popularisé le kir. C'est pas lui qui l'a inventé, hein. Ça existait déjà avant. Ça s'appelait le blanc cassis.
Ah oui, blanc cassis.
Ouais, et lui a donné son nom, parce qu'il est de Dijon tout simplement. Alors il a créé un lac artificiel en bordure de Dijon qui a été inauguré dans les années 60, mais il y a eu des crues terribles et il était sur place. Et il a échappé de peu à la noyade, sa déesse étant emportée par les flots, ce qui est la preuve que le kir et l'eau ne se mélangent pas bien. Vous avez aussi là-bas l'éditeur et encyclopédiste Pierre Larousse qui est né en 1817 à Toussy. On lui doit évidemment le fameux grand dictionnaire universel dont sera tiré plus tard le petit Larousse.
Ouais.
Et puis, dans un autre registre, l'architecte et ingénieur militaire Vauban, marquis de Vauban, qui est né à Saint-Léger-de-Foucheray. Aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Léger-Vauban, c'est une commune de Lyon. Alors, il a construit plus de 150 places fortes et puis des ouvrages civils gigantesques en France. Et puis aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup, parce que sans lui, sans cet ingénieur et industriel visionnaire, il n'y aurait pas de Statue de la Liberté à New York et pas de Tour Eiffel comme symbole de la capitale. C'est Gustave Eiffel,
évidemment.
Ah, il est bourguignon, Gustave Eiffel. Oui, absolument. Il est né en 1832 à Dijon. un autre monument encore, mais là, cette fois, on est dans la littérature. C'est Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, qui est née à Saint-Sauveur en Puisaye. C'est une des plus célèbres romancières en France et à l'étranger, surtout la deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt en 1945. Et puis un dernier monument, le journaliste et animateur Denis Brognard, qui est né à Dijon en 1967.
Et qu'on salue. Et vous oubliez quand même un autre bourguignon très très célèbre, qui est chroniqueur gastronomique sur Europe 1.
Bourguignon d'adoption.
Oui, mais il est aussi belge, donc c'est un statut bâtard. Ouais, vous avez dit qu'il était entre les deux.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai que c'est une région que j'aime beaucoup. J'y vis une partie de mon temps, j'y vais depuis très longtemps. Et c'est une région pour laquelle j'ai une immense affection.
Mais parce que vous vivez dans une cave là-bas, Olivier, je le sais.
Et alors, pas que pour les vins. Évidemment que les vins sont fantastiques, on va en parler dans un instant. Puis je vous ferai découvrir peut-être une partie un peu moins connue du vignoble bourguignon, quelques chemins de traverse. Puis évidemment, la gastronomie bourguignonne, on va y revenir, c'est inépuisable, hein, avec des produits fantastiques, les fromages d'abbaye, le Citeaux, des fromages fantastiques comme les poisses sous-matrin, le jambon persillé, l'incontournable, si vous êtes gentil.
Bon,
je vous en donnerai une petite tranche tout à l'heure.
La moutarde,
évidemment, oui. Emblème de la ville de Dijon. Je vous raconterai aussi pourquoi la moutarde de Dijon est si célèbre et si populaire, et puis quelques plats incontournables. Moi, j'ai envie de bœuf bourguignon, d'escargot, de meurette, enfin, la Bourgogne me donne faim.
Bon, ben voilà, un bon programme. Nous serons rejoints dans un instant par Guy Carlier, bourguignon de grand cœur. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours sur Europe 1, 2 heures de voyage pendant tout l'été, juste pour se faire plaisir, pour rêver. Tout à l'heure, après 17h, je vous emmènerai donc en Équateur. Mais là, tout de suite, nous sommes en Bourgogne. Un pays fort riche, là ça nous a alléché de ce que vous nous avez dit, amis voyageurs qui êtes autour de cette table. Et puis pour découvrir plus encore cette terre riche, un bourguignon qui a une longue histoire d'amour avec cette terre, le chroniqueur, écrivain et homme de scène Guy Carlier. Bonjour Guy.
Bonjour à tous.
Ça me fait plaisir que vous soyez venu nous voir pour nous parler de cette Bourgogne.
Moi aussi, ça me fait plaisir d'en parler, d'autant que de la même façon que notre ami Pouls est belgo d'origine, ouais. Enfin belge d'origine et bourguignon d'adoption, moi je suis, on le sait, d'Argenteuil, ouais. et fidèle à Argenteuil d'origine.
Et comment vous êtes retrouvé avec une maison en Bourgogne?
Vous savez, dans les années 60, il y avait, c'était les 30 Glorieuses, etc. Ouais. Il était, même pour les gens qui n'étaient pas forcément très aisés, je dirais pour la middle class, il était de bon ton d'acheter des résidences secondaires. Alors, les gens achetaient l'indicateur Bertrand, je ne sais pas si ça existe toujours. Et alors, mes parents avaient choisi une région où c'était moins cher que la Normandie, qui était plus proche d'Argenteuil, et le Morvan, qui est quand même une région assez sous-cotée. Mais ils ont acheté une maison qui valait 6 000 francs, c'est-à-dire 1 000 euros. Quoi, dans le milieu des années 60, j'avais 11 ans. Je me suis retrouvé là.
Mais elle était habitable. Pour ce prix-là, elle était habitable. Elle était,
oui, mais minuscule. Il n'y avait que des dépendances. Les enfants dormaient dans la paille des granges, etc. Et
c'était quoi? C'était une ferme?
C'est une maison d'habitation, mais il y avait deux annexes, deux granges très grandes. Après, c'est devenu la maison de ma vie. Ma mère me l'a donnée. Et puis, donc maintenant, j'en ai fait une. Voilà, de la même façon, vous savez que dans SAS, Malco restaure un château en faisant des missions d'espionnage. Bon, moi, je faisais des missions radiophoniques pour restaurer cette maison. C'est la maison de ma vie, quoi.
C'était votre rêve de faire de cette maison?
Oui, quand j'étais petit, donc il y avait une seule chambre. Donc tous les enfants, mes parents dormaient dans cette maison principale, on va dire. Les amis dormaient à l'hôtel et tous les enfants dormaient dans la grange. Mais dans la grange, au milieu de la paille, des œufs, de quelques poules qui avaient pondu, etc. Et je me disais, quand je serais grand, c'est l'époque des groupes anglais, tout ça, je rêvais de... J'avais vu ça sur des photos d'Eddie Barclay. Il avait une baie vitrée qui donnait sur une piscine. Et je me disais, là, il y a un grand mur, je ferai une baie vitrée, j'aurai un jukebox, je mettrai les Stones et je plongerai dans le... Et je l'ai fait.
Je
l'ai fait.
Bah maintenant, il y a 25 suites, c'est... piscine
d'un Non, il y a deux étages. Il y a deux étages dans
piscine
cette grange. Et il y a cette ouverture, sauf qu'il y a une terrasse entre ce qu'on ne peut pas faire directement, enfin, pour des raisons, pour faire un cours d'architecture. Enfin, on ne pouvait pas mettre la piscine contre la maison. Et, mais c'est l'œuvre de ma vie, quoi. Enfin, l'œuvre entre guillemets. Je n'ai jamais eu de plan d'épargne. Enfin, vous voyez, je l'ai mis de sous de côté. J'ai toujours, dès que j'avais un peu d'argent investi dans cette maison. Mmh. Et c'est vraiment, quand j'arrive là-bas, de toute façon, dès que j'arrive en Bourgogne, je ne sais pas si vous, vous ressentez ça, vous parlez là de lieux depuis le début de l'été, d'endroits comme ça. Il y a des endroits où, les yeux fermés, on sent. Moi, par exemple, je sais qu'en Espagne, si je suis dans une ville espagnole, j'ai les yeux bandés, je sens l'odeur de la ville espagnole. Vous sentez que vous êtes à Valence ou à Madrid.
Le tempo est différent.
Il y a quelque chose dans l'air. Là-bas, Argenteuil, c'est pareil, vous mettez n'importe où les yeux bandés. Bon, la Bourgogne, c'est pareil. Dès que j'arrive dans le Morvan, plus précisément, je sens ça, il y a des vibrations. Mmh. Voilà, il y avait, on dit ça, c'est, vous savez, tout près de Vézelay, qui est un endroit magnifique, une colline éternelle d'où on a prêché la croisade. Et on dit que l'air est si pur que Saint Bernard, qui a prêché la croisade, était entendu sur les collines avoisinantes, genre à 3 km. C'est la légende. Mmh. Enfin,
et c'est quel paysage, le Morvan, exactement?
C'est vallonné. Le Morvan, ce sont des collines, il nous l'a dit tout à l'heure, avec des démons qui peuvent aller jusqu'à 900 mètres. Mais enfin, c'est surtout des démons, voilà. Et généralement, en haut de chaque mont, vous avez l'église et le cimetière, et le village est plus bas, est au bas de la colline. Et c'est ce qui se passe dans ma commune, qui s'appelle Saint-Aubin-des-Chaumes. L'église est sur la colline avec le cimetière autour.
J'ai l'impression qu'il y a une relation assez forte là-bas entre les habitants et leur terre.
Oui,
il y a un lien puissant. J'ai l'impression que c'est, quand on est là-bas, on y est attaché presque physiquement.
Oui, c'est presque un lieu commun. Enfin, c'est presque du museau que je vais vous dire là. Mais enfin, on sent l'homme est attaché. Vous voyez, on sent les pieds de l'homme.
Ouais. Oui, mais
vous rappelez la chanson de Delpech, on dirait que ça te gêne. Bon, voilà, c'est comme les gars du Loir-et-Cher. C'est des types qui sont accrochés. Ça ne les gêne pas de marcher dans la boue. Et puis, ils ont... Il y a presque une identité de matière entre la terre et l'homme. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont pas... Ils ne sont pas déracinés. Mmh. Ils sont liés par des racines.
Mais même dans le vin, c'est sans doute la région dans laquelle la notion de terroir, de relation entre le plant et la terre est la plus forte. Ouais.
Mais alors, est-ce qu'ils sont accueillants, ces gens?
Ils ne sont pas désagréables, mais, non, mais je veux dire, c'est pas c'est méridional. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez dans le sud, même dans le nord. Vous voyez, alors là, c'est là aussi, c'est un lieu commun, mais quand vous arrivez à Lens, par exemple, enfin, dans ces pays miniers et tout ça, c'est incroyable de chaleur humaine. Ils ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor, disait notre ami. Et non, mais c'est vrai. Alors que là, ils sont méfiants. Justement parce que c'est leur terre, parce que bon, et puis moi depuis, je dis, les années 60, je suis presque un enfant du pays, enfin ils ont l'habitude, et puis ceux qui me connaissent au début sont morts, et enfin voilà, il y a eu un renouvellement, et maintenant pour les gens du village, je suis du village.
Bah oui.
Mais sinon vous êtes le Parisien, quoi, ça c'est sûr.
Et au bout, il faut combien de temps pour ne plus être le Parisien?
Vous êtes toujours le Parisien, vous restez le Parisien, mais ce n'est pas péjoratif, il n'y a pas d'agressivité. vous nouez des liens, tiens, j'ai des œufs, est-ce que là, voilà, ça se manifeste comme ça, tout d'un coup. Moi, je me souviens, les gens venaient, mes parents se sont fait adopter comme ça, c'est-à-dire qu'un matin, ils ont trouvé des œufs devant la porte, et puis des salades. Des choses comme ça, vous voyez, des signes, mais ils n'avaient pas besoin de mots, les gens n'ont pas besoin de mots. C'est, voilà.
On continue à explorer la Bourgogne avec vous, Guy Carlier, dans quelques instants sur Europe 1.
16h, 18h, et si on partait, Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes bien partis déjà, nous sommes en Bourgogne, en compagnie d'un bourguignon de cœur qui est en train de nous montrer combien il aime sa Bourgogne, Guy Carlier. Guy, quels sont vos endroits préférés en Bourgogne?
Plus précisément, c'est moi. Je vis dans le Morvan, enfin le parc naturel du Morvan, qui commence à Vézelay. Alors, Vézelay, c'est le sud de Lyon. On est presque dans la Nièvre. Et d'ailleurs, moi, ma maison, le hameau dans lequel je vis, est à 500 mètres dans la Nièvre. De l'autre côté de la nationale, enfin de la départementale, c'est Bazoges du Morvan qui est dans Lyon encore. Et on parlait de Vauban tout à l'heure. Il y a le château où il est mort, où il a vécu. Et il est enterré dans ce village. Mais vous voyez, on est dans l'Yonne, et de l'autre côté de la départementale, on est dans la Nièvre.
Ouais. Et Vézelay.
Et donc Vézelay est à 10 km de là, et c'est un endroit extraordinaire. Il y a, je crois que c'est Jules Roy qui disait, il y a dans l'air quelque chose d'indéfinissable qui vient se lever dans les replis de l'âme et qui donne comme un avant-goût de l'éternité et de l'infini, quoi. Et moi, j'ai une anecdote une histoire qui magnifique qui s'est passée à Vézelay et qui illustre tout à fait ça. Vous savez que Rostropovitch avait toujours refusé d'enregistrer les suites pour violoncelle de Bach parce que il considérait qu'il n'était pas suffisamment habité par l'esprit de Bach au moment où il les avait écrites pour les interpréter. C'est fou, pour les enregistrer. Mmh. Il y jouait, mais il ne voulait pas laisser cette trace-là sur disque. Et puis il est arrivé un jour à Vézelay, il est monté, Vézelay c'est une colline avec une, on va dire une rue unique qui monte vers la basilique romane, et il est entré dans cette basilique et il a dit « c'est Bach ». Et là, il a appelé sa maison de disques, ils ont installé tout un matériel d'enregistrement et il s'est mis à répéter et il a enregistré ces deux fameux disques de suite de violoncelle.
C'était à ses yeux le seul lieu sur Terre où on pouvait enregistrer Bach.
C'est la première fois où il s'est senti capable d'enregistrer ses suites pour violoncelle. Et donc c'était, on va dire, début 91, quelque chose comme ça. Et moi, à l'époque, quand j'allais, je faisais des travaux dans cette maison et donc je ne pouvais pas y coucher parce que j'étais en plein travaux. Donc je dormais dans un petit hôtel à côté de Vézelay et je montais à la basilique régulièrement le matin. Je trouvais que c'était très agréable parce qu'en plus, les moines qui... c'est les moines de Jérusalem, là, je sais. Et donc, chantent dans le... ont des chants, enfin, dans les messes, comme les messes du matin, ça porte pas, les matines peut-être, je ne sais pas, enfin je ne suis pas spécialiste. Et c'est très beau, c'est des chants, ce n'est pas des chants grégoriens, c'est des espèces de chants, mais presque joyeux, c'est vraiment magnifique. Donc je monte à la basilique, et il n'y avait pas les moines, mais il y avait Rostropovitch qui répétait. Mmh. Donc là, sur le devant de la... De la basilique et à l'endroit où se tient le prêtre. Et donc il y avait des amplis, des grandes colonnes de son et j'étais déjà bouleversé. À l'époque, il y avait encore des confessionnaux et je le regardais et tout à coup j'entends des bruits un peu comme un sanglot quoi, derrière un confessionnal. Et je me penche et c'était Gainsbourg.
Gainsbourg.
Gainsbourg a passé les derniers mois de sa vie, les dernières semaines de sa vie à l'Espérance, qui était un trois étoiles de Saint-Père sous Vézelay, qui a quelques chambres pour quelques clients privilégiés. C'est pas un hôtel, c'est surtout un restaurant, vous voyez, comme ouais. Bocuse, enfin comme tous ces restaurants. Ouais. Mais il a quelques chambres. Et Gainsbourg était là. Il est rentré juste quelques jours avant sa mort, parce qu'il est mort, je crois, au moment de la paix, dans la première guerre du Golfe, 91, quelque chose comme ça. Donc, il était là. Et c'était... Et il pleurait en écoutant Rostropovitch jouer. Et quand on connaît Gainsbourg, quand on connaît son côté provocateur par rapport aux valeurs comme ça, spirituelles, vous voyez, c'était comme si soudain il prenait conscience d'une force
supérieure.
C'était très très émouvant parce que en écoutant Rostropovitch répéter, on le sentait ça. Et cet homme qui savait pertinemment qu'il allait mourir dans quelques semaines prenait soudain conscience de ça. Et c'est une scène évidemment qui m'a bouleversé.
Mais j'imagine.
Et donc quelques semaines plus tard, il est rentré à Paris et il s'est éteint, je crois, le jour de la. Il faudrait vérifier à un jour près ou deux le jour de la fin de la première guerre du Golfe.
Ah, quelle histoire! Merci Guy Carlier, surtout vous restez avec nous. On va continuer à explorer tranquillement la Bourgogne jusqu'à 17h sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous voyageons comme tous les jours sur Europe 1 durant tout l'été entre 16h et 18h. Tout à l'heure, à partir de 17h, nous irons jusqu'en Équateur, le pays des volcans, des Galapagos, de la forêt amazonienne. Un tout petit pays, mais un immense voyage. Et pour l'heure, nous sommes en Bourgogne avec notre guide exceptionnel, Guy Carlier, et tous mes amis voyageurs, dont Nathalie Elahal. Et Nathalie, je vous remercie de souligner que la Bourgogne est associée à un film cultissime, et on ne le dit pas assez.
Oui, absolument, cultissime.
Et oui.
Vous avez reconnu.
Moi, j'ai reconnu.
Ah bah oui, évidemment, la grande vadrouille avec ses 17 267 000 spectateurs.
17 millions.
Mais oui, c'est énorme. Pendant des années, numéro 1 du box-office français, c'est toujours un des films préférés d'ailleurs des Français, un film tourné en 66 par Gérard Houry. Et c'est vrai que la région a servi de décor à certaines des scènes les plus culte, comme la fausse convalescence de l'aviateur anglais Big Moustache.
Avec l'infirmière, un peu revêche.
Absolument, oui, joué par Marie Marquet aux Hospices de Beaune. Et puis aussi l'incendie de la commandante Tour à Meursault. En réalité, c'était l'hôtel de ville de Meursault. Et c'est une bonne raison pour avoir situé l'action dans ce coin de la Bourgogne. C'est que, d'abord, le maquis du Morvan, qui est bien connu, qui a été un haut lieu de la résistance, il est tout près, donc c'était facile de se cacher. Et puis la zone libre, elle n'est pas éloignée non plus. Donc c'est pas non plus un hasard si Gérard Houry a tourné aux Hospices de Beaune, au moins pour de bonnes raisons.
Olivier ?
Oui, il a tourné également dans le petit village de Noyères-sur-Serein.
Oui, j'allais en parler.
Voilà.
Oui, ouais. Pour l'Hôtel du Globe.
Et Guy, vous vouliez
ajouter quelque chose ? Il a tourné également dans le petit village de Pierre-Pertuis, remarquable parce qu'il y a deux ponts à Pierre-Pertuis, un pont moyenâgeux et puis surplombé d'un pont un peu plus viaduc. Et vous savez, la fameuse scène où vous avez Louis de Funès sur la tête, sur les épaules de Bourville qui tape sur le casque allemand parce qu'il n'a plus de chaussures, etc. Et se passe sur ce pont-là et l'équipe était logée dans un hôtel qui s'appelle Les Deux Ponts, qui est le seul restaurant du bled, quoi, et qui a gardé des souvenirs très très émus de cette équipe fort sympathique au demeurant.
Ah, j'imagine, mais donc c'est une grosse partie du film qui a été tournée en Bourgogne.
Moi, je voulais vous parler surtout des sœurs médecins et infirmières de l'Hôtel Dieu aux Hospices.
Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. Asseyez-vous.
En fait...
33. 33 Eh ben
33
Oui.
C'est culte.
Ouais. Et vous allez voir qu'en fait, le film, il colle à la réalité à 100%, parce que guérison et religion, elles ont toujours été reliées. Et puis, dans les hôtels Dieu ou les hospices, eh bien, le service pharmaceutique était le plus souvent assuré par des religieuses. Elles mettaient au point des remèdes d'apothicaire. Et à Beaune, eh bien, c'était les filles hospitalières de Sainte-Marthe qui soignaient des malades depuis 1452. Et la salle où est alité Big Moustache, l'aviateur anglais, avant d'être exfiltré, elle existe vraiment. Ah. Ça s'appelle la salle des pauvres, 20 mètres de haut, 72 mètres de long, avec plein de lits. Il y a une trentaine de lits en chêne entourés de rideaux. Normalement,
on y mettait... Comme dans le film.
Exactement comme dans le film. Et l'acteur anglais Terry Thomas, qui est connu pour avoir participé entre autres à Amicalement Vôtre, il n'a pas eu du mal à jouer avec la bouteille à la main. Alors figurez-vous qu'il réclamait un cachet astronomique pour participer au film, mais quand il a appris que le film serait tourné à Beaune et Meursault, l'amour du vin a été un argument mais super sérieux, donc il a révisé ses prétentions à la baisse.
Ah oui, vraiment ?
Vraiment.
Ah
oui. Et puis on raconte aussi que les membres de l'équipe ont beaucoup profité du tournage en Bourgogne pour faire le tour des grands crus, se constituer une belle cave au passage. Il y avait des soirées très, très arrosées. Ils rentraient souvent en titubant. Pendant ce temps-là, De Funès allait plutôt taquiner la truite au bord de la rivière qu'on appelle la Bouzaise. Et puis,
parce qu'il ne buvait pas un coup, De
Funès. Au moins, il était beaucoup plus sobre. Et puis Bourville, lui, s'asseyait sur un banc pour raconter des blagues. Donc chacun a trouvé son compte, finalement.
Oh, dis donc, quelle aventure ça a dû être, ce tournage.
Extraordinaire, j'imagine, extraordinaire.
Alors, après la fiction, la réalité, il y a une histoire assez étonnante d'agent secret, c'est ça ?
Oui, alors il s'agit du chevalier Déon. Alors ça, c'est un des personnages les plus énigmatiques de notre histoire. C'était le meilleur agent secret de son époque. Il a littéralement passé la moitié de sa vie en homme et l'autre en femme. Il a été habillé en homme pendant 49 ans et en femme pendant 32 ans.
Mais alors, au départ, il est fille ou garçon ?
Ha 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 Eh bien, il est garçon, mais sans contrefaçon, hein, on peut le dire. Alors, Charles Geneviève, pourquoi Geneviève? C'était le prénom des marraines, hein, c'était normal de donner un prénom de la marraine. Il naît en 1728 à Tonnerre, dans l'Yonne. C'est un lieu prédestiné pour une naissance, parce que vous allez voir qu'il a eu un destin hors norme et qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, voire du tapage. C'est une famille d'avocats, il est élevé à la dure, il monte à Paris, il apprend l'escrime, il se révèle excellent bretteur et puis il devient censeur royal, c'est-à-dire qu'en fait, il est en charge de l'édition des livres dans le royaume. Il a un sens relationnel important, on pourrait dire aujourd'hui qu'il avait du réseau, il fréquente les milieux éclairés et il devient rapidement le favori du cousin Louis XV, le prince de Conti.
Mais quel rôle il joue exactement dans tout ça?
Eh bien, en fait, la France voulait sceller une alliance avec la Russie et donc Charles Geneviève a pour rôle de séduire et de gagner la confiance de la tsarine. Le prince de Conti décide de travestir le chevalier Déon qui devient mademoiselle Lia de Beaumont. Donc elle gagne la confiance de la tsarine, elle devient même...
Il fallait qu'il soit femme pour...
Oui, pour être plus proche, pour entrer dans son intimité, elle devient sa lectrice. La mission est réussie, puis il y en aura d'autres.
Quelle drôle d'idée quand même.
Bah oui, mais enfin j'imagine qu'il avait le physique qui s'y prêtait, il paraît qu'il est très bel homme d'ailleurs. Alors il y aura plein d'autres missions, hein, majoritairement en Angleterre, et la légende commence, d'autant qu'il adore se pomponner. Donc il devient le centre d'attraction du tout Londres, on parle de lui, mais on se met aussi à parier des sommes folles dans les clubs ou les cafés sur le sexe du French chevalier.
Parce qu'on ne sait pas, les gens ne savent pas
parce
vraiment.
Parce qu'il est toujours en femme. Alors on ne sait pas, puis on le voit se battre quand même, donc un escrimeur femme, c'est quand même un peu bizarre à l'époque. Il se déguise tout le temps, il donne des sortes de représentations. Mais à son retour en France, eh bien, les gens commencent à se poser des questions, parce qu'il a tellement bien joué son rôle de femme qu'il ne peut pas être un simple travesti. Et puis on ne lui connaît pas de vie sentimentale, ni sexuelle non plus.
Ah bon, mais alors il va réapparaître en homme un jour ou pas?
En fait, jamais officiellement, parce qu'il s'est mis la monarchie à dos, il a essayé de faire chanter le roi Louis XVI avec des papiers compromis mettant sur ses missions secrètes, mais ça ne marche pas. Donc il va rentrer en France ruiné. Et puis il est obligé de s'habiller en femme par ordre du roi. Et
ah
puis,
bon
ben oui, parce que le roi lui dit, bon, écoutez, vous avez joué la femme, maintenant vous allez rester la femme. C'est une façon de le garder un petit peu sous sa coupe. Alors, lui, il accepte, mais en échange d'une rente. Hein. Il négocie une rente avec le roi
il
pour
une
rester
rente royale
oui,
pour rester femme.
Femme. C'est assez extraordinaire. Donc il devient, en plus, attendez, c'est pas tout. Il devient officiellement mademoiselle Déon de Beaumont. Mais comme il est une femme, justement, ben, ça lui ferme la porte des affaires politiques, de la diplomatie et puis aussi de l'armée.
Mais alors, il finit comment?
Bah, pas bien. Vous savez que j'adore les histoires qui se finissent mal.
Oui, je sais. Sanguinolente.
Non, c'est pas du tout sanguinolent. Il finit sa vie à Londres où il est reparti vivre en lady. Il perd sa pension à cause de la Révolution française. Le roi est mort, mais lui, il reste costumé en femme. Ça, on sait pas trop pourquoi. Donc, il tombe dans la misère progressivement. Il fait même de la prison pour dette. Et puis, il est hébergé par une vieille amie anglaise jusqu'à sa mort en mai 1810, à 81 ans quand même. Et puis là, il y a une grosse surprise. Lors de la toilette funéraire, les médecins et une quinzaine de témoins s'aperçoivent que, shocking, il s'agit bien d'un homme, mais complet.
Quelle histoire incroyable.
Un homme au complet.
C'est très étrange parce que j'ai un souvenir de... Il y a eu un film.
Plusieurs,
les auditeurs regarderont sur Google. Mais un film particulièrement qui a eu beaucoup de succès à l'époque, et au point qu'il a été diffusé le dimanche soir ensuite sur TF1. Mais j'étais petit et normalement je regardais, j'avais droit au premier quart d'heure. Et à un moment, on le voit dévoilé, c'est le premier sein que j'ai vu à la télé.
Et le sein de qui?
Bah, du chevalier Déon. Alors ça devait être une prothèse, je ne sais pas.
Prothèse mammaire.
Toujours est-il que c'était... Ça devait, oui, une prothèse mammaire, sûrement, j'en sais rien. Je ne me souviens plus dans l'histoire à qui il voulait prouver qu'il était une femme, vous voyez. Mais à un moment, il dévoile, il ouvre son uniforme, puisqu'il était en militaire. Et vous avez ce sein qui... Vous voyez, il y a de quoi perturber la sexualité d'un jeune enfant.
Alors, est-ce que ça a eu des...
C'est jamais remis.
Ça a eu des conséquences
Écoutez, non, mais...
Enfin, la sienne était déjà perturbée.
C'est le souvenir que j'ai du chevalier Déon qui a été vraiment un personnage marquant de l'histoire de France, on peut le dire.
Merci Nathalie pour ces histoires incroyables. On reste ensemble toujours à explorer la Bourgogne en compagnie de Guy Carlier. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes en Bourgogne jusqu'à 17h sur Europe 1 en compagnie de Guy Carlier et de tous mes amis grands voyageurs. Parmi lesquels Olivier Pouls. Alors maintenant, c'est...
Voyageur et mangeur.
Alors là, ça va être le grand moment, puisque nous allons parler de la gastronomie bourguignonne. Par où commencer ?
Bah, c'est difficile, tellement elle est vaste, tellement il y a de produits, tellement il y a de spécialités. Et puis pour faire plaisir à mon ami Guy, je lui ai apporté de son Morvan d'adoption, ce qui est un incontournable de la gastronomie bourguignonne, c'est, vous savez, le fameux jambon persillé, le persillé de Bourgogne. Ah. C'est une pure merveille. Tenez Guy, ouais, goûtez-moi ça.
Je viens de le goûter, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et c'est vrai que c'est une spécialité de la région. Celui-ci vient de la Nièvre, donc je vous ai dit que j'étais à la limite de Lyonnais de la Nièvre pour revenir à Saint-Père sous Vézelay, ce village qui est tout près de où on va faire les courses. Il y a une boucherie et puis c'est vraiment pas de la pub, mais la boucherie a eu un prix européen de la meilleure terrine.
Parce qu'il y a le championnat du monde, enfin en tout cas le championnat de Bourgogne de jambon persil.
Et c'est le même niveau que ça. Vous voulez une anecdote ?
Allez, Carly, une anecdote.
Bon. Et vous savez, vous avez une traçabilité évidemment sur les vaches qui sont des charolaises, mais enfin bon, qu'ils vendent dans cette boucherie-là notamment, et puis sur tous les produits qui sont magnifiques. Je voulais vous dire qu'un jour, dans la petite route qui monte au hameau, mon fils, il y a eu la chanson de France Gall, Résiste. Mmh. Et on s'arrêtait à chaque fois. Mon fils, qui avait une petite dizaine d'années à l'époque, voulait qu'on s'arrête près des vaches. Vous voyez, on s'arrêtait. Et la chanson passe, la chanson Résiste. Et il ouvre le toit de la voiture et il se met à leur chanter « Résiste, prouve que tu existes aux vaches ». Et c'est devenu un rituel. Et l'année suivante, mon ami François Rollin, qui me met en scène, vient à la maison et on invite Vincent de Dienne, que vous connaissez, et on lui raconte ce rituel. Ouais. Il lui dit « Tu sais, quand on arrive à la maison, on s'arrête près du pré et on chante « Résiste », on met la chanson à fond ». Et on chante Résiste. Et les vaches arrivent, elles s'approchent, elles entendent du bruit, elles croient qu'on va leur donner. Bon. Et on s'était arrêté à la boucherie. Et donc, Vincent de Dienne, François Rollin, moi, l'enfant se met à chanter Résiste aux vaches qui arrivent. Et François Rollin sort le roast beef, montre le paquet de la boucherie. Il y avait le roast beef dedans. Il dit, tu vois, Nicole, elle n'a pas résisté la semaine dernière. Bah, regarde.
On revient à mon persillé. Ouais. Rapidement, c'est une recette qui était historiquement une recette traditionnelle et familiale. Les charcutiers, les bouchers s'en sont emparés un petit peu plus tard. C'est une recette qu'on réalisait à Pâques, une sorte de fromage de tête, donc avec du jambon et de l'épaule, une cuisson avec du vin blanc et surtout beaucoup de persil et cette gelée qui fait la liaison entre les morceaux qui ont cuit lentement, qui s'effilochent doucement. Moi, j'adore ça.
C'est moelleux sous la langue. Alors, il y a un plat qui vraiment vous parle particulièrement.
Il y a un plat que j'adore, je ne sais pas si vous le connaissez, mon cher Guy, ça s'appelle le poulet à la Gaston Gérard. Il est une histoire assez amusante. Moi, j'aime bien ces plats, vous savez, qui sont nés un peu par accident. Et Gaston Gérard était le maire de Dijon au début du XXe siècle, un grand gastronome, et il était ami avec Kurnonski, le prince des gastronomes, le grand critique gastronomique. Il l'invite à manger chez lui, il confie à sa cuisinière le soin de faire le repas, et la volaille de Bresse est un des emblèmes évidemment aussi de la gastronomie bourguignonne, donc elle cuisine cette volaille de Bresse, et par accident, elle fait tomber du paprika dans la préparation. Ouais. Catastrophe. On ne peut évidemment pas récupérer la poudre. Donc, elle décide d'essayer de masquer ça. Elle rajoute du vin blanc, de la crème fraîche, du comté râpé en disant on n'y verra rien. Le plat est servi. Et évidemment, Kurnonski adore ça. Pour rendre hommage à son hôte, il décide de baptiser cette recette le poulet à la Gaston Gérard. C'est un poulet qui est devenu aujourd'hui l'un des emblèmes de la gastronomie dijonnaise. C'est très facile à faire et c'est franchement délicieux. De la volaille, du paprika, du vin blanc, de la crème fraîche et du comté. Il n'y a même plus besoin de planquer tout ça. Vous le vendez à vos invités. C'est vraiment très bon.
Le poulet à la Gaston Gérard. Oui. Pas mal ça. Et alors la moutarde. Faut quand même qu'on parle de la moutarde de Dijon.
Évidemment, la ville en produit dès le XVIe siècle. Et ce qui va faire l'une des... Elle n'est pas la seule. Hein. En France, on connaît la moutarde, notamment à Meaux, par exemple, ou à Paris. Mmh. Et les ducs de Bourgogne vont faire goûter leur moutarde régionale à Charles VII. Il va évidemment s'en éprendre, parce qu'il y a une petite particularité à la moutarde de Bourgogne et à celle de Dijon, c'est qu'en fait, on n'utilise pas du vinaigre pour la confectionner, mais du verjus, comme on est dans une région de vignoble. C'est du jus de raisin vert.
Ouais.
Et
ça donne, voilà, ça donne la particularité à cette moutarde de Dijon qui n'a pas tout à fait le même goût et donc il y a une spécificité, un goût un peu différent. Alors, il faut savoir qu'à l'époque aussi, on cultivait énormément la moutarde dans cette région. On en récupérait les graines pour faire la moutarde. Malheureusement, au fil du temps et notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pratiquement plus de plantations. On est en train de replanter aujourd'hui et il y a une indication géographique protégée aujourd'hui pour la fameuse moutarde de Bourgogne. Pas la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, c'est une recette. Elle n'est pas protégée. On fait de la moutarde de Dijon un peu partout.
Et pourquoi elle est si célèbre ? Pourquoi c'est elle qui a tout dominé, la moutarde de Dijon ?
Parce que gustativement, elle était probablement à un moment la meilleure. Et puis, il y a beaucoup de moutardiers, de familles qui se sont lancées dans la production et dans l'élaboration de la moutarde. Et ensuite, évidemment, avec le développement des voies commerciales, elle a essaimé un peu partout.
Alors, les vins. Il faut parler des vins.
Évidemment, il faut parler des vins. Et je voudrais vous parler, non pas des grands vignobles que tout le monde connaît, hein, les Nuits Saint-Georges, les Gevrey-Chambertin, les Meursault, les Von Romanée, c'est délicieux, on ne va pas se plaindre.
C'est divin.
Mais Guy ayant sa maison plus au nord, entre la Nièvre et Lyon, c'est le vignoble de Lyon dont je voulais vous parler, parce que j'aime beaucoup ce petit vignoble qui est en pleine renaissance. Alors, on ne va pas parler de Chablis qui est très connu, mais à Vézelay, par exemple, il y a aujourd'hui un travail de remise en œuvre d'un vignoble qui a longtemps existé, qui a été célèbre, qui a produit de bons vins, qui a un peu disparu, notamment avec les crises du phylloxéra et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on replante des vignes. Il y a d'ailleurs, depuis, je crois que c'est un an et demi ou deux ans, une appellation d'origine à Vézelay pour un vin blanc et un vin rouge.
Et c'est de quel niveau ? C'est comparable aux autres ? À quoi ?
Il faut remercier là pour le coup le réchauffement climatique, parce que grâce au réchauffement climatique, depuis quelques années, les vins mûrissent et donc on a de très jolis vins. C'est du chardonnay, donc le même cépage que le vin blanc qu'on trouve partout ailleurs, et du pinot noir, avec un caractère un peu différent. Quand on les goûte, c'est pas du Chablis, c'est pas du vin de la Côte de Beaune, il y a cette identité de terroir de
Vézelay.
Donc
c'est du Vézelay.
C'est du Vézelay. Et un autre vignoble que j'aime beaucoup en vin rouge là pour le coup, qui est le vignoble d'Irancy. Qui lui aussi depuis quelques années a le vent en poupe. Il y a quelques très beaux producteurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des vins qui sont abordables.
Très bien. Vous avez réussi à être original et abordable en Bourgogne, ce qui n'est pas facile.
Je vous sers un petit verre pour accompagner tout ça.
Merci Olivier Pouls. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Je vous vois affûté sur la Bourgogne, prêt à nous donner tous les bons conseils pour la découvrir.
En fait, il y a le côté vignoble effectivement qui fait partie des incontournables en Bourgogne, mais il y a aussi le côté très nature. Et là, je m'adresse aussi à Guy parce que j'adore l'endroit où il vit, c'est-à-dire ce fameux Morvan. C'est vraiment le poumon vert, un petit peu sous-estimé de cette région-là. D'ailleurs, ce poumon vert, il est à cheval sur les quatre départements de Bourgogne, ce qui lui donne aussi cette identité très bourguignonne. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se baser du côté d'Autun, Guy. J'aime beaucoup cette ville. On se base à Autun et de Autun, on peut explorer en suivant toutes ces petites routes bien sinueuses, ces petites départementales que j'aime bien. Et on va se perdre dans les méandres de ce Morvan qui culmine à 900 mètres d'altitude. Donc, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, vous l'avez dit. Moi, j'aime beaucoup le lac des Sétons. Je ne sais pas si ça vous dit.
Je connais, vous connaissez très bien.
Il y a aussi le lac de Saint-Agnan. Ce qui est bien autour de ces deux lacs, c'est des plages aménagées. Donc, en cette période un petit peu qu'on a eu de canicule, c'est vraiment les deux endroits où il faut se baser. On peut vraiment faire trempette. Et ce sont des plages qui sont très bien pour ce type de lac. C'est aussi le Morvan, le paradis de la randonnée, du VTT et du rafting. Alors, il n'y a pas de grands hôtels. C'est ce qui fait aussi le charme. C'est juste des petits gîtes, des chambres d'hôtes. Donc, il y a vraiment des pépites aussi au niveau hébergement.
Et c'est aussi le pays de la roche de Solutré.
Alors, la roche de Solutré, en Saône-et-Loire. Ça en descend beaucoup
c'est
plus au sud.
C'est notre ancien président.
Voilà, près de Mâcon. Moi, j'aime beaucoup cette... On a parlé du côté vibration qu'on avait à Vézelay. Moi, je le retrouve du côté de Solutré, justement. Solutré, c'est une falaise calcaire qui fait 500 mètres de haut, qui se dresse au milieu du vignoble. Donc, c'est déjà très photogénique en soi. Et surtout, c'est un ancien site préhistorique, il faut le savoir. Les hommes préhistoriques, disait-on, tuaient les animaux sauvages en les jetant du haut de cette falaise, donc 500 mètres de haut. Ils les tuaient de cette façon-là, donc, ils récupéraient leur viande tout en bas.
Ah bon ?
On a même retrouvé une couche d'un mètre d'ossement d'épaisseur au pied de la falaise.
Ah, c'était l'abattoir officiel.
C'était l'abattoir, exactement. Mmh. C'est exactement ça. Alors bien sûr aussi, c'était un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que M. Mitterrand, il faisait chaque année un pèlerinage. Il a rendu ce site très célèbre par sa visite. Nous, simples touristes, ce qu'on peut faire, c'est y monter au sommet de cette roche de Solutré. Ça prend à peu près une heure.
Le panorama,
il faut des bonnes jambes. Ouais, c'est assez escarpé. Alors, le panorama, c'est fabuleux. veux, parce que là, on parlait justement de la Bourgogne, région un peu carrefour. Vous avez vraiment cette vision sur le carrefour de la France, à la fois, vous voyez les Alpes partant dégagées, on voit le Mont Blanc par certains moments, on voit le Jura.
De partout. Ça marche pas partout, Jean-Bernard.
On voit le Jura, ça marche pas partout. On voit le Massif Central. Enfin bref, c'est un lieu carrefour et on sent ces fameuses vibrations autour de cet endroit.
La Roche de Solutré, ça vous inspire, Guy ?
Non, mais par contre, le fief, je dirais, mitterrandien, existe aussi à Château-Chinon.
À Château-Chinon, dans la Nièvre.
Et donc, Mitterrand avait vraiment une relation forte, alors qu'il n'était pas originaire du Morvan. Et j'ai retrouvé par hasard un de mes voisins, qui est Daniel Vaillant, l'ancien ministre de l'Intérieur, que j'ai vu un jour dans une émission au maquillage d'une émission de télé. Il m'a dit, tiens, vous avez votre maison à Saint-Thomas-des-Champs. J'ai dit, mais comment vous savez ça? Il dit, je suis quand même ministre de l'Intérieur. On est devenus amis. Et il a une grange d'enfance qu'il a retapée. Et il aime évidemment cette région. Il y a quelque chose de... On parlait de racines. Il y a quelque chose d'historiquement qui relie historiquement l'histoire du PS. Toutes les premières campagnes de Mitterrand, avec Daniel Vaillant, avec l'équipe Quilès, etc. Enfin, vous voyez, tous les fondateurs du PS se réunissaient dans cette région-là, à Château-Chinon et dans les environs. Tout est né de là, quoi.
Alors, la Bourgogne, c'est un repère de sites absolument mythiques, historiques. Il y a des lieux vraiment que vous adorez, Jean-Bernard.
On en a parlé avec Guy, justement, le côté religieux qu'il y a à Vézelay. Alors, moi, j'ai ressenti très fort ce côté un peu mystique, cet élan mystique. On l'a à Vézelay, on l'a à l'abbaye de Cluny. Mais moi, j'ai surtout été impressionné par l'abbaye de Citeaux, que je pense que vous connaissez bien. Ouais. Alors, ce n'est pas l'architecture de cette abbaye qui est vraiment impressionnante. Pourtant, elle date du XIe siècle. C'est surtout le côté monastique, la vie des moines. Et là, on s'immerge vraiment dans cette villa, c'est vraiment impressionnant. On passe dans un autre monde avec ces règles de vie dures, austères que sont les cisterciens. Ces moines cisterciens, il y en a 35 qui vivent sur place. Ils se lèvent à 3h45 du matin, ils se couchent à 20h30 et surtout, on peut assister à leurs prières, à leurs louanges. Je suis arrivé à ce moment-là, je les ai vus tous entrer dans l'église et il y a eu une explosion de chants. Ouais. On sent une tension incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Qu'on soit religieux ou pas, c'est pas le problème. On arrive là, on est touché par cette espèce de côté mystique, cette spiritualité, et on est complètement coupé du monde extérieur. Les moines sont bien sûr en tenue de moine, évidemment.
Et ils font du fromage.
Et ils font du fromage aussi, voilà. Là, j'y étais plus pour le côté mystique que pour le côté épicurien. Pour une fois, mon cher Olivier. Pour une fois.
Guy, il a parfaitement raison. C'est même pas l'aspect religieux de la chose, c'est l'aspect spirituel. Tout à coup, on perçoit on perçoit qu'on a une âme. On est comme au-dessus du nuage de nos pensées habituelles, voyez, de notre niveau de pensée habituelle. On s'élève vraiment.
Ça prend au trip.
Malgré nous.
Complètement.
Jean-Bernard, s'il y avait une cité que vous conseilleriez, une petite ville, une bourgade qui vous emporte ?
On l'a légèrement évoqué tout à l'heure. Moi, j'adore Noyères-sur-Serein. Ça se dit Noyères-sur-Serein, c'est dans l'Yonne, c'est à 30 km d'Auxerre, justement. C'est la cité médiévale par excellence, en pleine nature, avec des maisons à pans de bois, des remparts, arcades. Enfin, c'est vraiment... On est dans un décor de film. D'ailleurs, il y a des films qui ont été tournés sur place. Le dernier en date, c'est La Reine et le Cardinal, avec Philippe Torton et Alessandra Martinez. Il y a vraiment des noms de rues qui trahissent le côté la place de la petite étape au vin, la rue du Grenier à sel. Bref, c'est un voyage dans l'histoire Noyers-sur-Serein que je vous conseille.
Merci Jean-Bernard pour tous ces bons conseils. Merci Guy Carlier de nous avoir fait visiter votre Bourgogne, mais partagez. Je rappelle que vous jouerez à nouveau votre one-man show Carl et Guitou à Argenteuil, votre ville natale.
En avant-première, le 26 septembre.
Absolument.
Et en Bourgogne, quand ?
Après, je suis dans toute la France jusqu'en juin, puis Avignon, puis Paris à la rentrée.
Voilà,
Donc je vous donnerai ça. Je reviendrai parler de Bourgogne.
Avec plaisir, quand vous voulez. Voilà, Carl et Guitou, c'est un peu les deux Guy Carlier, celui qu'on connaît, celui qu'on connaît moins.
Le diable sur l'épaule droite et puis le petit ange qui joue de la harpe sur l'autre épaule.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À une prochaine fois, j'espère. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h, je vous emmènerai très loin. Nous irons sur le continent américain, dans un pays assez incroyable, un tout petit pays, mais dans lequel il y a tout. Vous avez la cordillère des Andes, l'océan Pacifique, les îles Galapagos, la forêt amazonienne. Nous allons découvrir ensemble l'Équateur. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1. Les infos, Théo Manval.
Un sommet européen convoqué en urgence dans deux jours pour évoquer le renforcement des sanctions européennes contre certains dirigeants biélorusses. Les 27 se retrouveront mercredi midi par visioconférence pour en décider. Alors qu'à Minsk, les manifestations se poursuivent, le président Loukachenko a été alpagué par la foule aujourd'hui en visite dans une usine. Les salariés lui ont réclamé de quitter le pouvoir. « Tant que vous ne me tuerez pas, il n'y aura pas d'élection », leur a-t-il répondu. L'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, se trouve, lui, aux Émirats Arabes Unis depuis son départ du pays il y a deux semaines. C'est ce qu'indique cet après-midi la Maison Royale Espagnole, visée par une enquête pour corruption à propos de millions d'euros de commissions qu'il aurait touché de la part du régime saoudien. Juan Carlos avait annoncé son exil pour apaiser le climat autour de la famille royale le 3 août dernier. En France, 9 décès liés au coronavirus en une semaine dans l'EHPAD de Pulnois, près de Nancy, qui avait dû se reconfiner la semaine dernière après une recrudescence de cas parmi les résidents et le personnel. La plupart des victimes avaient plus de 90 ans, étaient en fin de vie ou avait d'autres problèmes de santé selon la direction, qui cherche désormais du personnel pour les semaines à venir après le droit de retrait exercé par 8 soignants. Et ce rebond de la pandémie en Europe coupe les ailes de la reprise dans le secteur aérien. Ryanair annonce supprimer 1 vol sur 5 pour les mois de septembre et d'octobre à cause de la faiblesse des réservations. Soulagement en revanche pour les salariés de Camaïeu, 80% des emplois sont sauvés après la validation par la justice du projet de reprise porté par la financière immobilière bordelaise. 2600 salariés conservés sur 3100 au départ. Si les relevés météo américains sont confirmés, c'est l'une des températures les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. 54,4 degrés Celsius relevés hier dans la vallée de la mort en Californie. Alors que beaucoup plus au nord, au Groenland, la fin de la calotte glaciaire est désormais irréversible selon une étude de scientifiques de l'université d'Ohio. Elle continuera de rétrécir cette calotte jusqu'à disparaître, même si le réchauffement climatique s'arrêtait aujourd'hui, car les chutes de neige ne peuvent plus compenser les pertes de glace pendant l'été. Un point de non-retour est donc atteint, selon ces chercheurs. En sport, c'est une première. Le club de rugby de Perpignan va pouvoir accueillir 8000 personnes lors de son match de vendredi, match amical pour la réception de Colomiers. C'est la toute première dérogation accordée dans le monde du sport pour dépasser la jauge des 5000 personnes dans les stades. En football, Kylian Mbappé, lui, est opérationnel pour être titulaire avec le PSG demain soir face à Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions. Confirmation de l'entraîneur Thomas Tuchel en conférence de presse. Enfin, quand un TGV s'arrête pour débarquer de force un passager qui refusait de porter son masque. Ça s'est passé, j'en perds mon souffle, hier après-midi en gare du Creusot en Saône-et-Loire. Et c'est tout à fait légal, assume la SNCF. Un arrêt spécial a été marqué sur ce TGV Paris-Nice devant le refus d'obtempérer de cette personne qui a aussi écopé de l'inévitable amende de 135 euros. Il est 17h passé de 3 minutes sur Europe 1. Vous ne risquez pas d'être débarqué du train conduit par Philippe Googler. Et si on partait, place à la deuxième heure jusqu'à 18h.
Merci Théo Manval. L'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Aucun risque d'être débarqué du train, non, c'est sûr. Juste pour le plaisir de voyager, nous partons ensemble tous les jours sur Europe 1 aux quatre coins de la planète, sans aucune contrainte. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui dans un pays dont on parle peu. Quand on évoque l'Équateur, on pense à un petit pays où il fait sans doute très chaud, avec des plages qui se languissent sous le soleil et des jungles inextricables. Eh bien, l'Équateur, c'est bien plus que ça. La première surprise, c'est que quand on part dans ce pays, il faut prendre avec soi une doudoune. Car en Équateur, l'altitude peut passer de 0 mètre à la plage sous les palmiers à plus de 6200 mètres dans la cordillère des Andes. Une bonne partie du pays est très très montagneuse. Il y fait frais, l'herbe y est verte et Quito, la capitale, est à 2850 mètres. C'est une des capitales les plus hautes du monde. Et les rencontres qu'on fait en Équateur sont aussi spectaculaires. Je pense à une guérisseuse que j'ai rencontrée dans un tournage des Trains pas comme les autres. Elle s'appelait Carolina. Elle habite dans un village, dans la montagne. Quand vous arrivez devant chez elle, il y a une file d'attente. Il y a des gens du coin qui viennent se faire soigner. Et alors j'ai pu assister à une séance et je dois dire que je n'en suis pas encore tout à fait remis. Il y a Au moment où je suis arrivé dans son cabinet, une patiente qui se sent pas bien et qui a mal au dos. Alors Carolina parle avec elle, assez longuement, mais elle ne l'ausculte pas. En revanche, elle se lève pour aller chercher dans une réserve, à l'arrière de la maison, un cochon d'Inde. Un petit cochon d'Inde tout blanc, vivant, qui ressemble à un cochon d'Inde de chez nous, le petit animal familier. Et ce qui va se passer est stupéfiant. Elle prend le petit animal dans ses mains et le fait passer au-dessus de la personne malade, sur toutes les parties de son corps. Je suis un peu surpris, alors je demande pourquoi elle fait ça. Elle me répond, c'est comme une radio, le cochon d'Inde, ça remplace les rayons. Ça permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Alors, la réponse est tellement étrange, et puis elle est en pleine consultation, que je n'ose pas trop en demander plus. Et elle continue à bien passer le cochon d'Inde près de la nuque, la tête, le corps, les pieds, tout. Évidemment, je pense que pour le cochon d'Inde, ce n'est pas le meilleur moment de sa vie. Et je m'inquiète un peu pour lui. Et là, deuxième réponse incroyable de la guérisseuse, il est déjà mort. Je lui dis, comment ça, mort? Il était vivant il y a quelques secondes. Il a absorbé la maladie de la patiente. Et il est mort. Le cochon d'Inde absorbe les maux et il nous soigne en mourant. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu un truc pareil. Et je reste vraiment sans voix, en ayant quand même une pensée pour ce pauvre cochon d'Inde. Mais la patiente a l'air contente. Elle me dit, j'ai senti quelque chose. Je me sens plus légère. Et là, sous mes yeux, la guérisseuse va ouvrir le cochon d'Inde, l'ouvrir un peu comme à la boucherie, pour regarder dans ses entrailles. Et dans les entrailles de l'animal, elle lit. Elle observe de quoi souffre la patiente. Tu vois, là, regarde, là, sur les côtés, sur la colonne, ce qui brille un peu comme un poisson, c'est blanc et c'est la preuve que la patiente a eu un coup de froid. Et je regarde la patiente et elle confirme, effectivement, elle a pris froid. Et Carolina dit à sa patiente, vous voyez le sang qui monte à la tête de l'animal, là? C'est ça qui vous bloque. C'est ça qui vous rend colérique. Et la patiente, un peu gênée, avoue, dit, c'est vrai, je me mets souvent en colère contre mon mari, surtout quand il rentre sous. Et même chose avec une grosse tache noire sur le squelette du cochon d'Inde qui grosso modo se trouvait là où la patiente a mal au dos. Et c'est vraiment étonnant. Et tout ça se fait assez vite, assez rapidement. On lit dans le cochon d'Inde comme on lit sur une radio chez nous. C'est normal, c'est l'ordinaire. J'en crois vraiment pas mes yeux. Et Carolina, la guérisseuse, est déjà passée à la suite, au traitement. La patiente est déshabillée et frottée des pieds à la tête avec toutes sortes d'herbes médicinales qui viennent du jardin. Et j'en saurai pas plus, parce que la guérisseuse n'est pas bavarde du tout. Et c'est comme ça, et c'est tout, il n'y a pas d'explication. Et puis surtout, il y a des tas de patients qui attendent leur tour.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Jusqu'à 18h, nous sommes en Équateur sur Europe 1. Et cette fois-ci avec Jean-Bernard Carrier pour un petit topo géographique. C'est où l'Équateur exactement?
Déjà, Amérique du Sud.
C'est sur l'Équateur.
C'est sur l'Équateur. Oui, justement.
On a un bon indice là.
Très bon indice. Vous savez que sur place, justement, il y a un endroit qui s'appelle la Mitad del Mundo en Équateur. J'y suis allé, c'est la moitié du monde. Vous êtes exactement à la latitude 0.
Ouais.
0 degré, 0 minute.
Ouais.
Donc c'est presque un site touristique en lui-même. Alors, vous l'avez dit, c'est en Amérique du Sud, avec entre la Colombie et le Pérou, Colombie au nord, Pérou au sud, et ça donne sur la côte pacifique.
Ouais.
Donc il y a toute une façade littorale assez importante.
Au nord de l'Amérique du Sud.
Au nord de l'Amérique du Sud. C'est un petit pays, la moitié de la France à peu près, donc ça se visite assez facilement en 2 semaines, 3 semaines. Vous avez 3 régions différentes. Vous avez au centre, vous avez la cordillère des Andes avec l'avenue des volcans. Vous avez l'Amazonie à l'est et vous avez la côte. Donc la côte pacifique à l'ouest, elle très, très tropicale. Et à ne pas oublier, bien sûr, l'archipel des Galapagos qui se trouve à 1000 km à l'ouest, en plein océan Pacifique. Pays très petit, mais très varié.
Très varié. Tout ça, tout ce que vous venez de décrire, ça se parcourt en quelques heures.
En quelques
de
heures,
voiture,
ouais.
Vous passez de l'un à l'autre, c'est incroyable. Nous sommes en ligne avec Antoine Groisel, qui est en Équateur. Il est le fondateur d'Iteka Voyage. Il a épousé une Équatorienne, il a des enfants franco-équatoriens. Il n'est pas suspect de ne pas aimer l'Équateur. Bonjour Antoine.
Bonjour Philippe.
Alors, quelle heure il est en Équateur, là, à peu près?
Il y a 7 heures de différence en heure d'été, hein, donc il est presque 10h à Caracas.
Ah d'accord, la journée commence pour vous.
Du matin. Hein. Exactement.
Alors vous vivez en Équateur, donc pas loin de la ligne de l'Équateur. Est-ce que ça a des conséquences concrètes dans le quotidien de vivre sur l'Équateur?
Alors sur l'Équateur, il y a malgré tout un phénomène qui se passe, c'est que le soleil va être extrêmement puissant. Donc, par exemple, moi qui ai une peau extrêmement blanche, hein, je suis breton d'origine, donc je me protège pas mal, hein, il le faut, parce que sinon je deviens rouge très très vite, et d'autant plus ici. Donc il faut faire attention au soleil, hein, qui est fort. Mais l'équateur en soi n'a pas un impact très important, hormis cela, c'est plus l'altitude lorsqu'on vit dans les Andes qu'un impact important.
C'est un impact sur les saisons quand même.
C'est un impact sur les saisons en soi, sur le climat en effet, parce que... Vous n'avez pas ce phénomène que nous pouvons connaître chez nous en Europe et en France, avec l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, avec des saisons très très marquées ici. Ici, c'est peu marqué. La saison toute l'année est presque identique. On a des journées qui vont être presque équivalentes également toute l'année, hein, c'est-à-dire que le soleil se lève plus ou moins à 6h, 6h30 et se couche à 6h30 du soir, 7h maximum. Et ça, toute l'année, hein. Il n'y a pas de perte de feuilles, par exemple. Ici, on ne va pas voir les arbres sans feuilles nues. La végétation reste plus ou moins identique toute l'année. Donc ça, c'est assez étonnant, en tout cas, quand on vient d'un pays comme la France.
Mais alors, le même temps toute l'année, le même soleil toute l'année, est-ce qu'on ne s'ennuie pas un peu?
C'est quelque chose qui peut manquer quand on a vécu son enfance en France. En tout cas, c'est vrai que moi, j'aime bien, par exemple, le printemps particulièrement, et l'automne aussi, les couleurs de l'automne. Ici, on ne l'a pas, mais bon, on a d'autres phénomènes. La lumière qui peut être très, très intéressante ici, par exemple, notamment dans les Andes. Voilà, il faut vivre avec ça et satisfaire de ce qu'on a.
Ouais. Alors, si on parlait un petit peu de la population des Andes, parce que l'Équateur est couvert pour une bonne part par la cordillère des Andes, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le caractère de ces descendants des Incas? Comment sont les gens là-haut?
Alors les gens, il faut s'imaginer, hein, les Équatoriens globalement, et encore plus dans les Andes peut-être, aussi en Amazonie à moindre mesure, mais c'est des gens qui sont très très calmes, hein, qui ont comme ça une force en eux, ils s'énervent très peu. Moi qui est français et qui a tendance à m'énerver assez facilement, notamment quand on conduit, vous savez, c'est, voilà, ce genre de choses. Ici, non, les gens restent calmes, s'énervent pas, vivent au jour le jour, hein, le fameux concept qu'on a développé chez nous de carpe diem. Ici, ils l'ont intégré totalement, c'est-à-dire que c'est pas un concept, c'est un rythme de vie, et donc ils voient au jour le jour, ils profitent des petits moments de la vie, de la famille, voilà, des petits plaisirs de la vie. Donc la population est assez agréable dans ce sens-là. Très paisible.
Donc là vous parlez, parce qu'évidemment il y a toute une population qui descend plutôt des Incas, toute une population qui est métissée avec les descendants des conquistadors espagnols. Là vous parliez plutôt du côté Inca, si j'ose dire.
Je parle du côté Inca, mais il est présent, même si ici il y a des statistiques ethniques, hein, à la différence de la France, donc on sait exactement combien de pourcentage il y a d'indigènes, comme on dit ici. Combien de pourcentage de métis, hein, descendants d'Espagnols, comme vous l'avez dit, des conquistadors. Donc oui, je parlais essentiellement de cette population Inca, mais malgré tout, la différence parfois entre cette population qui se dit indigène et cette population qui se dit métis n'est pas très nette. On va avoir dans les villes beaucoup de faciès indigènes, même s'ils se considèrent comme métis. Ma femme, par exemple, fait partie de ces gens-là. Elle est née dans une petite ville au sud de Quito. Donc elle va se considérer comme métisse, mais clairement, si vous la voyez, vous n'allez jamais vous dire qu'elle a une descendance espagnole, quoi. C'est impossible. Elle a le faciès clairement indigène.
Ouais. On est très très haut, hein, dans ce pays, très souvent. On est par exemple à Quito à 2800 mètres, c'est une altitude où chez nous il y a des glaciers et des pics à serrer. Là, c'est juste l'altitude ordinaire. Il y a des volcans partout qui grimpent à plus de 6200 mètres. Est-ce que les gens vivent, parce que beaucoup de ces volcans sont actifs, est-ce qu'il y a une crainte des volcans? Comment ça se passe?
Alors absolument pas, ça, c'est assez étrange, mais en effet c'est une terre uniquement volcanique en Équateur, à la différence du Pérou par exemple. Il n'y a aucune montagne ici en Équateur, c'est uniquement des volcans, et donc en effet certains sont actifs. Et la population le vit très sereinement, à l'image de ce que je vous racontais tout à l'heure, hein, de cette notion de carpe diem qui est très très intégrée ici. Il considère que le volcan est là, c'est en effet ça, un danger possible, en tout cas dans certains cas, si le volcan est proche d'une ville par exemple, hein, mais bah, c'est comme ça, nous vivons avec et nous verrons bien ce qui se passe. S'il doit exploser, il explose, s'il n'explose pas, bah, tant mieux. Et l'avantage, c'est que ça donne une terre très riche, en tout cas pour planter,
oui,
et
parce que
pour que tout pousse.
C'est vrai que les versants des volcans sont souvent très très fertiles. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Surtout, on va continuer à explorer avec vous dans un instant, Antoine, l'Équateur, dans quelques secondes sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, tous les jours entre 16h et 18h, nous voyageons, nous sommes en Équateur, un pays étonnant avec, vous l'avez entendu, une capitale à 2800 mètres d'altitude, la capitale de Quito. Donc c'est sous l'Équateur, mais il y fait frais, parce que c'est élevé. Et c'est une capitale assez agréable et très jolie, avec un centre qui est classé parmi les plus belles villes du monde. On m'avait conseillé d'ailleurs d'aller faire un tour dans la grande banlieue de la ville, très exactement, à El Quinché. El Quinché, c'est un lieu saint, et très saint. Il y a des milliers de fidèles qui viennent y prier la Vierge d'El Quinché, qui est la sainte patronne des chauffeurs et qui est réputée aussi avoir accompli des guérisons miraculeuses. Et donc, je suis allé voir et je me suis baladé dans les environs de l'église. Alors, on ressent la ferveur, il y a beaucoup de monde, il y a une messe toutes les heures. Je ne sais pas si vous imaginez, le week-end, une messe toutes les heures, les églises sont pleines. Et juste derrière l'église principale, il y a un embouteillage, un étrange embouteillage, sans bruit, sans klaxon, sans impatience, avec un nombre incroyable de voitures, de bus, de camions, de motos, toutes sortes d'engins à moteur, immobiles, presque silencieux, dans une rue sur à peu près, allez, 1 ou 2 kilomètres de long. Et les gens attendent. Et au milieu de tout ça, il y a un jeune prêtre avec un petit seau argenté au bout du bras, qui court dans tous les sens et qui n'arrête pas. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, d'après vous ?
Il bénit les voitures, les véhicules.
Bénit les véhicules. Des centaines de véhicules à coups d'eau bénite et de goupillons. Et il répète sans cesse la même phrase. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, nous te demandons de bénir ce moyen de transport et chacune de ses parties, que la sagesse et la prudence vous accompagnent, que vous alliez dans la paix et dans le bien à la destination choisie. Voilà, c'est
vous connaissez bien votre prière.
Mais
Philippe.
Oui, oui. Mais après, il le répète, il y avait 600 véhicules à bénir le jour où j'y étais. Et il est tout seul, le petit prêtre, il court comme ça de voiture, en bus, etc. Alors, il n'arrête pas, donc j'essaie de l'interpeller pour comprendre. Là, il était en train de s'approcher d'un gros bus jaune, et il me dit, ben, les gens viennent faire bénir leur véhicule pour avoir la protection de la Vierge d'El Quinché. Donc moi je dis, mais moi je sais pas, je suis peut-être ignare, mais je croyais qu'on bénissait les êtres humains, pas les voitures et les bus. Et le prêtre dit, ben si, on fait les deux. On bénit les gens parce qu'ils conduisent le véhicule, et on bénit le véhicule car c'est le symbole de leur travail. Et il enchaîne le bus, etc. Et c'est vraiment étonnant parce que dans cette rue, sur des centaines de mètres, dans leur véhicule, il y a toutes sortes de gens. Vous avez des familles, des motards, des conducteurs d'autobus, et la plupart attendent très très longtemps, tout ça dans un calme absolu. Et alors il y avait un automobiliste qui était là avec un pick-up dernier cri, flambant neuf, et il m'a montré qu'il avait encore même pas eu le temps d'enlever toutes les étiquettes sur sa voiture neuve, parce que dès qu'il en a pris possession, hop, il fallait immédiatement aller la bénir. Il n'était pas question de rouler une seconde, ou 10 secondes, disons, sans la protection de la Vierge. Et puis, il y avait aussi un énorme autobus. Et donc là, je demande au conducteur de l'autobus, qu'est-ce qui vous envoie faire bénir ce bus ? Est-ce que c'est la compagnie de bus ? Ou est-ce que vous y venez de votre propre chef ? Et le chauffeur me répond, non, mais ce n'est pas la compagnie, c'est moi. Je suis venu en dehors de mes heures de travail, c'est une question de dévotion. C'est une question de responsabilité même, pour protéger les passagers. Voilà. Et donc, c'est très étonnant. Et c'est une foi très touchante, très simple. On vient demander la, la protection de la Vierge, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. L'Équateur est un pays principalement catholique et on y est très très pratiquant.
Et est-ce que vous avez les statistiques de la sécurité routière? Est-ce que ça marche?
J'ai peur qu'elles ne soient pas très bonnes.
Bon, Philippe, en tout cas, vous êtes très porté sur la bénédiction et la protection aujourd'hui.
Mais oui, nous sommes avec Antoine Grouazel en ligne depuis l'Équateur, fondateur d'ITK Voyage. Antoine, il y a en Équateur, font partie du pays les îles Galapagos. Et ça, c'est un endroit incroyable, incroyablement protégé, qui est formidable pour observer la nature. C'est tellement protégé que les animaux n'ont pas peur des hommes là-bas. Parlez-moi de cet endroit, Antoine.
Ouais, les Galapagos, c'est un endroit extraordinaire. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai été complètement bluffé. Alors, c'est classé UNESCO, hein, donc c'est totalement protégé. C'est un parc national ici qui appartient à l'Équateur, avec une autonomie un petit peu spéciale. Et en effet, quand on s'y rentre, quand on arrive aux Galapagos, on se rend compte très très vite d'une chose, c'est que les animaux sont là. La terre appartient à la faune locale et pas à l'homme. Et du coup, elle a tous ses droits. Donc on va nager au milieu des poissons, des requins récifs, des tortues marines. On va marcher à quelques centimètres des tortues terrestres géantes, hein, ces fameuses tortues iconoclastes des Galapagos. Et tout ça dans un espace de totale liberté. Donc c'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire. Et c'est vraiment ce que j'ai pensé moi la première fois, c'est que j'avais l'impression d'être dans un film de Walt Disney, avec une âme d'enfant qui est revenu chez moi, et c'est vraiment ça, les Galapagos. Hein,
c'est-à-dire que les animaux n'ont vraiment pas peur, ils viennent vous faire des bisous, comme dans Disney.
Et exactement, bon, les requins, on essaie d'éviter quand même.
les requins, on essaie de les approcher, justement, quand on est en plongée, moi c'est ce que j'ai fait, on les recherche parce qu'on est sûr de les voir, en plus.
On les recherche, mais peut-être pas le bisou, malgré tout.
Non, pas le bisou, non.
Par exemple, je vous raconte une anecdote. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'étais à un endroit qui s'appelle Isla Lobos, hein, donc au large de l'île San Cristobal, hein, qui est l'île la plus à l'est des Galapagos. Et à ce moment-là, on faisait un snorkeling, hein, donc une nage avec palme, masque et tuba. Et des otaries sont arrivées. C'était une maman avec ses deux enfants. Et elles sont venues jouer vers nous. Donc, elle jouait à la surface. C'était un endroit où il y avait entre 1 mètre et 3 mètres de fond. Hein, donc, on avait pied par moment. Et on pouvait même se mettre debout comme ça. Et elle venait vers nous en sortant de l'eau comme ça. C'était assez exceptionnel. Donc, ça, voilà, c'est des choses comme ça, on le vit très facilement au Galapagos.
Mais c'est le paradis terrestre là, que vous nous décrivez.
En tout cas, en termes d'observation de faune, c'est extraordinaire. Alors évidemment, on peut être un peu frustré, hein, malgré tout, sur le côté quand on arrive au port, par exemple. Hein, c'est une vraie station balnéaire parce que 95% du parc national Galapagos est totalement protégé et donc inaccessible à l'homme. Et il y a uniquement 5% qui peut être découvert par l'homme. Et du coup, quand on est dans ces 5% du territoire qui peuvent être observés, bah forcément, il peut y avoir une interaction touristique à un moment donné. Donc ça peut être un peu frustrant, et notamment dans les ports. Mais malgré tout, c'est en termes d'observation de faune et de jeu avec la faune, entre guillemets, ça c'est extraordinaire.
Merci beaucoup Antoine, vous restez avec nous. On continue à parcourir l'Équateur dans un tout petit instant sur Europe 1, après avoir écouté Camila Cabello, Habana.
Europe 1, Philippe Googler.
Alors nous étions à la Havane, on redescend un petit peu vers le sud-ouest. Nous sommes à nouveau en Équateur. L'Équateur, je n'arrête pas de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme ça. Hein. Vous êtes sur la côte pacifique, 2, 3, 4 heures de voiture, hop, vous êtes en haut de la cordillère des Andes, vous êtes à Quito, vous êtes à 2800, 3000, 4000, 5000 mètres d'altitude. À nouveau 3 heures de voiture, de l'autre côté, vous redescendez. Et là, vous arrivez dans la forêt amazonienne. Il y a une diversité de ce pays absolument incroyable. D'ailleurs, la descente sur la forêt amazonienne est incroyable parce qu'on passe par des gorges, des cascades vertigineuses, etc. On descend des Andes vers quasiment l'altitude zéro. Donc, c'est vraiment un voyage incroyable. Et Nathalie, alors vous nous avez trouvé, vous, une histoire côté forêt amazonienne.
Oui, une histoire incroyable, elle aussi, on peut le dire. Hein. L'histoire des réducteurs de tête de la tribu des Chouars.
Oula.
Ouais, ça rigole pas du tout. Accrochez-vous, les amis, ça va tanguer. Alors, les Chouars, c'est un des groupes amazoniens les plus étudiés. Hein. C'est sans doute d'ailleurs la tribu qui a le plus marqué l'imagination des Occidentaux et le plus contribué à la réputation des Jivaros. Vous savez, les Jivaros, c'est un nom que donnaient les premiers conquistadors espagnols aux ethnies qu'ils croisaient. Mais c'est plutôt péjoratif. Hein. Jivaros, ça veut dire sauvage ou barbare. Alors, les Chouars, ils sont 40 000 actuellement et on les trouve dans les plaines de l'Amazonie. Et c'est une société de chasseurs, cueilleurs, cultivateurs, surtout de manioc et patates douces, jusqu'aux années 50 à peu près.
C'était vraiment des durs ?
Ah ben, plus que ça, c'était des barbares. On peut le dire que c'était pas le peuple le plus accueillant du monde, Philippe. En même temps, bon, ça peut se comprendre, hein, parce qu'il fallait bien résister à la cupidité des Espagnols attirés par les gisements d'or importants sur leur terre dès le XVIe siècle. Mais figurez-vous que même les missionnaires n'ont jamais réussi à s'implanter de manière durable chez eux. Ils ont plutôt très mal fini.
Ah, évidemment, on a envie de savoir comment.
Alors, ils ont fini dans la marmite, mais pas pour être mangés, non, parce que les Chouars, eux, ils préfèrent quand même manger du bouillon de crocodile, c'est pas des cannibales. Mais enfin, les missionnaires et les autres ont fini sans leur tête. Parce que les Chouars, ce sont des guerriers redoutables et redoutés, et donc spécialistes de la réduction des têtes. Alors ça, c'est une coutume appelée tsanzas. Et le but de cette coutume et de cette tribu, c'est pas du tout de s'approprier la richesse ou les territoires, mais plutôt de s'emparer des forces et de l'esprit de l'ennemi. Et il fallait aussi se venger sur l'ennemi des exactions et des meurtres passés. C'est comme un cycle de vendetta qui n'en finirait plus.
Et comment on fait alors?
Eh bien alors, ils ramenaient les têtes comme trophées, hein, ils tuaient leurs ennemis, ils coupaient les têtes, et puis ils transformaient au cours d'un rituel très long, très complexe, super élaboré, une semaine de boulot, hein, pour incorporer la force de l'âme de la victime et obtenir une protection contre la vengeance du camp adverse. Alors, il fallait surtout maintenir l'âme de l'ennemi fraîchement tué prisonnière dans la tête du propriétaire parce qu'il croit aux esprits vengeurs. Donc qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, il vidait, il désossait la tête, il la desséchait à l'aide de cendres et de pierres chaudes.
Mais l'âme, elle est partie là à ce moment-là.
Bah oui, j'imagine qu'elle était partie depuis belle lurette. Elle s'était fait la malle.
Mais comment il faisait pour la maintenir ?
Bah surtout, alors attendez, c'était tout un process parce qu'il mettait du sable, il cousait la tête, il la remodelait. Puis ensuite, le guerrier se mettait cette tête autour du cou dans une sorte de cérémonie destinée à montrer aux ancêtres eh bien, que la vengeance avait bien été accomplie. Et il pensait surtout que ce tsanza, cette tête réduite, allait lui porter chance. C'était la croyance. Et à noter quand même qu'un tsanza réussi devait ressembler à la victime de son vivant. C'est-à-dire vous êtes avec une tête réduite, mais à peu près la même que celle que vous avez naturellement. Vous imaginez ? Vous visualisez la chose,
Philippe ? J'ai du mal. Mais c'était vraiment la tête en petit.
La tête en petite, grâce à ce process très long, très compliqué, un rituel initiatique, plus ou moins.
Et ça a duré jusqu'à quand, cette petite pratique ?
Jusqu'aux années 60. C'est-à-dire que les autorités équatoriennes ont quand même fini par l'interdire. Mais figurez-vous que...
ça a été interdit.
Ah bah oui.
On comprend pas pourquoi. Tiens.
On est étonnés, tiens, amis voyageurs. Mais quand même, figurez-vous qu'il y a quand même des collectionneurs qui recherchent ces tsanzas depuis toujours. Alors, il y a un trafic sordide d'imitations qui sont fabriquées avec des peaux de chèvre ou de singe ou même des cadavres récupérés dans des morgues. Et les tsanzas authentiques les plus recherchées sont, vous devinez, celles des Blancs. Ah. Elles sont noircies, mais on peut quand même les reconnaître à leurs moustaches hautement respectées. C'est les plus recherchées par les collectionneurs actuellement.
Je ne sais pas si Olivier, pour sa déco, rechercherait une tête réduite.
Petite sans-sas de Philippe Googler.
je suis pas votre ami.
Mais votre âme, qu'est-ce qu'elle deviendrait ?
Votre âme resterait avec
qu'est-ce
nous,
que vous allez faire avec mon âme ?
Je m'en nourrirai.
Autour du cou.
Faites peur. Nous sommes avec Antoine Groizel. En direct depuis Quito, en Équateur. Alors, l'Amazonie, il y a toujours des ethnies qui vivent dans la forêt. Comment elles sont intégrées au pays aujourd'hui ? Alors, j'imagine qu'il y a moins de coupeurs de tête et de réducteurs de tête.
Malheureusement ou heureusement, oui, il y a moins de coupeurs de tête.
Malheureusement.
parce que ça veut dire aussi qu'il y a une contamination d'autres sociétés en Amazonie nécessairement. Sinon, la tradition, qui est une tradition bonne ou pas, je ne sais pas, mais aurait perduré. Donc actuellement, il y a forcément un impact qui a eu lieu avec les pétroliers notamment, hein, qui sont largement intéressés par le territoire amazonien pour faire des forages et forcément s'enrichir. Donc il y a toujours des communautés, hein, indiennes évidemment, certaines qu'on peut pas aller voir malgré tout et heureusement qui arrivent à se préserver de tout cela. Mais par contre, il y a toutes les communautés accessibles, disons, qu'on peut voir assez facilement, sont pas comme on peut l'imaginer. Maintenant, elles portent, enfin, les gens portent des jeans, par exemple, hein, assez facilement, et ont l'habitude de voir des touristes blancs, hein, pour le dire de cette manière-là. Donc voilà, il y a un impact forcément, mais malgré tout, il y a toujours des populations qui arrivent à se protéger.
Et c'est très intéressant d'aller se balader dans la forêt amazonienne et d'aller au contact de ces populations, parce qu'on découvre souvent des gens qui ont appris à vivre dans des univers qui, pour nous, semblent extrêmement hostiles. Parce que la forêt amazonienne, c'est pas drôle, il y a des insectes, il y a des épines, c'est dangereux, etc. Et ces gens vivent là au milieu, comme nous. On vit au milieu des voitures et des rues où il y a de la circulation. Vous voyez, nous, on se débrouille, on n'a pas peur des voitures tous les jours. Ben, c'est ce qu'ils vous répondent. Ils disent, mais nous, en ville, on aurait peur. Mais eux, ils vivent avec les insectes, les trucs qui piquent, les trucs venimeux, etc. Et c'est leur quotidien. Et discuter avec ces gens-là de la relation qu'ils ont avec la nature, avec le danger et avec ce que la nature leur apporte aussi, parce que c'est bourré de médicaments et de choses qui soignent la forêt, eh bien, c'est extrêmement intéressant. Merci.
C'est tout à fait vrai. Oui, je voulais juste rajouter sur le peuple guerrier des Chouars. En Équateur, en tout cas, le peuple le plus guerrier sont et le peuple Waorani. Et pour preuve, hein, il y a un an et demi, ils ont exterminé une communauté Kichwa, hein, qui vivait proche de leurs frontières, disons, hein, en forêt amazonienne. Donc, pour vous dire qu'il y a encore des communautés qui sont totalement isolées, auxquelles on n'a pas accès, mais qui encore combattent leur territoire et cherchent à s'étendre encore. Donc, vous voyez quelque chose de, pour nous qui est plus du tout présent dans nos sociétés, bah, c'est encore présent en Amazonie d'Équateur en tout cas et dans d'autres parties d'Amazonie.
Ah oui, on n'imagine pas ça, ouais. D'accord. Merci beaucoup Antoine de nous avoir raconté votre Équateur. Je vous souhaite longue vie là-bas. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
Merci.
Dans quelques instants sur Europe 1, nous retrouverons Olivier Pouls, qui, après nous avoir raconté sa Bourgogne, va nous raconter son Équateur. Que mange-t-on là-bas ? Dans quelques instants.
C'est pas pareil.
En direct tous les jours, jusqu'à 18h sur Europe 1, nous voyageons ensemble. Et nous sommes maintenant donc en Équateur avec Olivier Pouls, côté gastronomie. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? C'est bien rien qui vient spontanément, hein, comme ça, là.
Oui, j'ai pas l'impression que vous ayez gardé des souvenirs de gastronomie impérissables.
Ah, si, j'en ai un, mais alors, je peux vous raconter.
Ah, bah, allez-y.
Je vais vous piquer un peu de votre temps.
Je vous en prie, c'est cadeau.
C'est au fin fond de l'Amazonie. Où vous avez des têtes réduites. Une tribu, non, mangez pas les têtes.
Un selmi de cochon d'Inde.
Ils font un élevage de larves de scarabées. Mmh. Alors, en fait, ils coupent des palmiers dans la forêt. Et les palmiers qui sont en train de se décomposer un peu, au cœur du palmier, il y a des scarabées qui viennent pondre des œufs et il y a des larves qui grandissent et ils mangent ces larves-là. Mais c'est tout un élevage, c'est-à-dire qu'ils coupent les palmiers exprès pour que les scarabées viennent pondre.
C'est pas des larves qui sont toutes blanches ?
Eh bien écoutez, alors ils m'ont fait une mauvaise blague, c'est qu'ils me l'ont fait manger cru en me disant « goûte, regarde comme c'est bon ». En fait, ça se mange pas cru, et donc c'était épouvantable. Mais après, cuit, je vais vous dire, c'est pas mauvais, ça a le goût. C'est comme si vous mangiez une côte de porc en purée.
Ah
vous
bah, voyez, oui, c'est un concept un peu spécial.
Ça a le goût de la côte
vous
de porc.
Vous avez une sachet et la côte de porc, en fait.
Non, mais je vous assure, ça a le goût de la côte de porc, mais sous forme purée. Mais pas la texture. C'est très étonnant.
Bah, je vous le laisse, parce qu'il y a des choses plus intéressantes quand même à manger en Équateur. Alors, il faut d'abord savoir que quand on bon, en Équateur, notamment dans la capitale, à Quito, il y a énormément de ce qu'on appelle la street food, de petits stands. Et on mange, les Équatoriens mangent beaucoup dehors, ça au débotté, toute la journée, on se prend des petits trucs à manger. C'est vrai que c'est assez sympathique. Il y a des produits frais assez sympas, il y a de la viande, il y a des poissons, il y a le maïs qui est omniprésent. Énormément de maïs, différentes variétés de maïs. Il est préparé sous différentes formes là aussi. La pomme de terre, le riz. Ouais. Qui sont des incontournables. Et puis, bah, comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, les ceviches.
Ah oui, c'est
l'incontournable ceviche.
J'avais oublié celui-là.
J'adore ça.
C'est
personnel.
Délicieux.
Il faut en faire chez soi, c'est très facile. Alors, le ceviche de poisson, évidemment. Alors, le ceviche, on va rappeler ce que c'est. Hein. C'est du poisson cru qui est mariné, mais pas trop longtemps, dans du jus de citron vert, avec de la coriandre, un petit peu de piment éventuellement. puis vous pouvez rajouter pour le croquant des petites, je sais pas moi, des pignons de pain ou des choses comme ça. J'adore ça. Et eux, ils font du ceviche de poisson, mais ils font aussi du ceviche de chochos.
Mais moi, j'ai peur du ceviche, parce qu'il faut quand même que ce soit bien conservé.
Alors, évidemment, ça, c'est le problème de la sécurité alimentaire qui entoure le ceviche. Il faut que le poisson soit très frais, et il faut que les conditions d'hygiène, de découpe, etc. soient bonnes. On ne mange pas un ceviche n'importe où. Mais bon, apparemment, eux en mangent énormément, ils n'ont pas trop de problèmes.
Sans Jean-Bernard, vous n'avez jamais été malade avec des ceviches?
Non, mais justement, à Quito, comme c'est en altitude, il y a quand même beaucoup moins de bactéries qu'à Guayaquil, où on est au ras de la mer, où il fait 30 degrés en permanence.
Donc manger du ceviche en altitude.
Il fait plus frais.
Bah oui, et puis le ceviche de chochos. Alors ça, ce n'est pas des poissons, c'est une espèce de haricot. En fait, c'est des graines de lupinus, qui est un arbre qu'on voit beaucoup là-bas, et ça ressemble à des gros haricots, et bon, là, il n'y a pas de danger. Et puis sinon, si vous voulez vraiment pas de danger, vous mangez des empanadas, des quesos.
Ah oui, c'est bon, empanadas.
Ah bah oui, vous voyez qu'il y a des choses
ça
sympas.
Revient, ça revient.
Des délicieux beignets au fromage. Et puis la frittata de porc. La frittata de porc, c'est des petits morceaux de porc. On démarre la cuisson dans l'eau, donc ils sont bouillis pour commencer. L'eau s'évapore, et ensuite, c'est le gras du porc qui va finir de le cuire. Mmh. Et ça donne quelque chose de croustillant et moelleux à la fois. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très bon.
Ouais. La banane, on en mange beaucoup. Moi, je ne suis pas très fan, parce que ça se cuit.
Bah, surtout, c'est la banane plantain, qui n'est pas exactement la banane fruit qu'on connaît et qu'on mange chez nous. C'est plus nourrissant, mais surtout, c'est un légume, là, pour le coup, qui doit se cuire. Il faut la cuire, car elle contient de l'amidon. Et si vous la mangez crue, ce n'est pas digeste du tout. Voire même un peu toxique. Donc, il faut la frire, la griller, en faire des purées. C'est vrai que ça accompagne énormément de plats là-bas, la banane plantain. C'est incontournable. Si on va là-bas, il faut la goûter au moins.
Ça va très bien avec la larve de scarabée.
Oui, en purée.
Qu'est-ce qu'on boit?
Bah écoutez, pour le vin, on retourne en Bourgogne. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, alors, il faut goûter les cafés aussi, parce que le pays est producteur de café, et il en est du café comme du vin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie notion de terroir aussi. Goûter ces cafés de terroir, notamment en Équateur, mais dans tous les pays où on en produit, c'est toujours très intéressant de goûter les cafés locaux. Les jus de fruits incontournables.
Ah oui.
Et si vous allez là, attention, petite précaution, l'eau n'est pas potable. Elle est, pour le coup, souvent distributrice de maladies. Mmh. Et donc, même dans les jus de fruits, dans tout ce qu'on va commander, il faut vérifier que ce soit bien de l'eau en bouteille, parce que l'eau du robinet peut vous laisser de très mauvais souvenirs. Toujours dit, l'eau, c'est pas terrible, mais surtout pas là.
Merci beaucoup, Olivier. Dans un instant, tous les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour découvrir l'Équateur de la meilleure façon.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler.
Nous sommes en Équateur, et cette fois avec Jean-Bernard Carrier et ses bons plans. Car comme pour tous les pays très riches en émotions et en sites de tout poil, il faut faire le bon choix au départ. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, en Équateur, dans les Andes, il n'y a pas que la ville de Quito, la capitale, qui est super intéressante. Moi, j'adore Otavalo. C'est une ville qui...
Otavalo,
ça se trouve, c'est le bastion de la culture andine, indienne, traditionnelle. Il faut y aller le samedi. Faites ce que j'ai fait le samedi, c'est le jour de grand marché. C'est le marché indien à ne manquer sous aucun prétexte. Alors,
pourquoi
on arrive au bord de la Panaméricaine. C'est le marché aux bestiaux sur un vaste terrain vague, ambiance comice agricole version andine. On se bouscule, on plaisante, on tope au milieu des vaches, des veaux, des verras, des poules, des cochons d'Inde. Et surtout, vous avez tous les Indiens des villages environnants qui sont là, qui sont en train d'échanger, de négocier. Et ils sont tous sur leur 31. Les femmes, elles ont une belle étoffe bleu marine sur leur tête, des jupes sombres, le corsage de dentelle brodée. Les hommes, très chics également, avec le feutre noir sur la tête. Une longue natte qui leur descend jusqu'au milieu du dos, très très classe. Ils portent un impeccable pantalon blanc complètement immaculé et un poncho bleu marine. C'est vraiment la grande classe, le défilé de mode andin à Otavalo.
C'est vrai que ce qui est chouette, ce sont les tenues des gens,
mais
plus que le marché lui-même.
C'est
en fait
absolument magnifique. Le marché en lui-même, rien d'exceptionnel. En revanche, il y a le marché du fruit aux légumes qui lui se tient au centre-ville. Donc on fait 2 km, on marche 2 km. Et là, c'est vraiment la leçon d'agronomie tropicale. J'adore. Il y a plein de plantes inconnues. Il y avait un étal auquel je me suis arrêté parce qu'il y avait beaucoup d'hommes autour de cet étal. Je trouvais ça un peu bizarre. On m'a dit, tiens, c'est des bottes de guayusa, une plante amazonienne qui, messieurs Olivier et Philippe, est parée de certaines vertus, dont celle de stimuler la vigueur sexuelle masculine. Je ne sais pas, je ne vous en ai pas rapporté, mais éventuellement, ça aurait pu servir.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'on pourrait en avoir besoin?
Ça a fonctionné chez vous?
Je vous dirai pas le résultat.
C'est pris.
Parce que moi, je me suis arrêté à la gargote d'à côté où on m'a servi une louche de... Yahuarlocro fumante. C'est une soupe de pommes de terre mélangée à du sang de vache et la purée d'avocat. Ça, c'est un vrai plat indien. J'ai pris qu'une seule louche, ça m'a suffi.
Attendez. Pommes de terre, sang de vache, avocat.
Exactement. Alors, on vous sert ça à la louche. Hein. C'est la mama indienne qui vous sert ça. Elle vous met dans un espèce de gobelet. Elle vous regarde un peu hilar, testé. Alors, j'ai pris une bonne gorgée. Ça m'a suffi. Mais c'est riche.
Mais ça a quel goût?
C'est riche, c'est dense. On sait pas trop. Voilà.
Bon.
Mais c'est très. Mais
il y a une vertu.
Non, il n'y a pas de vertu, si ce n'est d'être riche en calories, mais surtout c'est une ambiance, marché à Otavalo, il faut vraiment y aller pour les marchés.
Ouais. Voilà. Et à côté Amazonie, comment on peut faire?
J'ai eu de la chance de faire une croisière sur le Rio Napo, sur un bateau qui s'appelle l'Anaconda. C'est un petit bateau hôtel avec une dizaine de cabines. Vous êtes vraiment, c'est un cours d'eau qui vous amène au cœur de cette Amazonie, du bassin amazonien. Il y a des excursions à terre avec un guide naturaliste et sur la rivière. Alors dans la jungle, c'est franchement impressionnant parce que c'est très bruyant, il n'y a pas de silence, on entend des bestioles, des insectes, ça grouille, ça crie, c'est assez intimidant. Alors moi je m'attendais à avoir ces anacondas.
C'est vrai que, excusez-moi, je vous interromps, oui. Et c'est vrai que ce qu'il y a de plus fascinant dans la forêt amazonienne,
mais c'est le son.
C'est le son de la forêt qui n'arrête pas.
Alors moi je me suis dit, je vais voir des anacondas, je suis quand même venu pour ça, je vais voir des pitons, des caïmans, des jaguars. En fait non, les vrais dangers de la jungle, les vrais stars de la jungle ne sont pas ce que l'on croit, ce sont les kangas. Des énormes fourmis qui font 3 cm et leur piqûre provoque une douleur absolument dingue et fulgurante, semblable, comme disent les entomologistes, à celle d'une blessure par balle ou un coup de poignard. Et je les ai vus à 3 cm et là j'ai compris le briefing du guide qui m'a dit, règle de base en forêt, ne jamais s'appuyer sur un tronc, ne jamais s'asseoir sur le sol, ne jamais toucher les feuilles. Voilà la règle de base quand on est en Amazonie.
Ah ben, faut rien toucher, c'est les bras croisés.
Et c'est vraiment impressionnant. On a parlé tout à l'heure des Indiens, c'est eux qui font les excursions dans cette jungle. Ils lisent le paysage, ils vous emmènent, ils voient ce que vous ne verrez jamais. C'est incroyable de faire une balade dans la jungle avec eux.
Ouais. Et il y a des choses, enfin il y a des arbres, parce que des petites épines comme ça, je me rappelle des épines, des fameux palmiers où ils élèvent les larves de scarabée. Et des épines sont toutes fines, mais qui sont d'une dureté, elles sont capables de percer des chaussures de marche les plus épaisses, et ben elles percent, elles vont jusqu'à votre pied. Ouais. Non, c'est l'Amazonie, c'est spécial.
On vous lâche seul là-dedans, vous faites 20 mètres, vous êtes complètement perdu.
Je vais aller en Bourgogne.
Il y a des dauphins en Amazonie.
Mais oui, le dauphin rouge d'Amazonie. J'ai eu le privilège de les observer. Il y a un petit village où les villageois les attirent près des berges en les appâtant. Et ces dauphins sont roses. Ça s'appelle le dauphin rose d'Amazonie. C'est une espèce bien particulière. Et là, on les voit sortir leur long bec de l'eau pour s'emparer des poissons que les habitants leur remettent dans la bouche. Spectacle absolument incroyable.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. On pourrait parler de l'Équateur. Je vous l'ai dit, un tout petit pays, mais un immense voyage. On pourrait parler de l'Équateur encore pendant une heure. Mais c'est terminé. On va se quitter là. Hélas, on repart demain, rassurez-vous. On partira au pays des éléphants, des chutes Victoria, parmi les plus impressionnantes chutes au monde. Je vous emmènerai au Zimbabwe. Ça, c'est en deuxième heure à 17h. Et en première heure, direction l'Alsace, le pays des cigognes et de la choucroute et des maisons à colombages et de plein de bonnes choses qui se mangent et se boivent.
Ah oui.
À demain à partir de 16h. Dans un instant, le grand journal du soir. Bonsoir François Clos.
Bonsoir mon cher Philippe. Et pour compléter votre voyage, je conseillerais à tous nos auditeurs d'aller à la Fondation Cartier voir la magnifique exposition sur les Indiens de l'Amazonie. Les Yanomami, là, de la photographe et anthropologue suisse Claudian Dujard. C'est un magnifique voyage dans ce pays également.
Absolument. Excellent conseil François. Bravo.
Voilà, c'était mon petit conseil du soir. Mais on se retrouve demain pour un autre voyage.
Absolument.
Surtout,
à demain.
Bonne soirée.